Bonjour, c'est Nathalie David-Veil. Vous écoutez 4e de couverture sur Radio Judaïka. Je reçois aujourd'hui Evelyne Bloch-Dano. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit, votre dernier livre s'intitule « Le parfum des années ». C'est dans la fameuse collection « Ma nuit au musée » chez Stock. Alors, je vous présente, vous êtes biographe, écrivain, essayiste. Vous avez écrit, entre autres, énormément de biographies. Madame Zola, en 97, prix des lectrices de Elle. Madame Proust, qui a eu le prix Renaudot de l'essai en 2004, mais aussi sur Flora Tristan, George Sand. Vous avez beaucoup écrit autour des maisons d'écrivains. L'âme sœur en 21, un roman Violette et Stella. Et vous avez choisi d'écrire, pour cette collection, d'aller vous enfermer une nuit dans un musée. Vous avez choisi la Villa du Temps retrouvé à Cabourg, qui fait évidemment penser à Marcel Proust. Est-ce que c'est un musée, Marcel Proust? Parce qu'il est question aussi de femmes de la Belle Époque, on y reviendra, mais vous dites que la caractéristique de ce musée est l'absence d'un fond permanent. C'est-à-dire que les œuvres dont vous parlez dans votre livre, si j'y vais demain matin, elles ne seront plus là. Expliquez-nous un petit peu ce musée.
Oui, alors en fait, ça n'est pas véritablement un musée au sens véritable du terme, puisque pour pouvoir jouir en quelque sorte de l'appellation musée, il faut un fonds muséal permanent, ce qui n'est pas le cas de ce lieu. Alors, cette villa, parce que c'est vraiment à l'origine une villa, a été construite autour de l'idée et de la période de la Belle Époque. Parce qu'évidemment, ça fait référence à Cabourg, à Houlgate, à toute cette côte fleurie de Normandie. Et Proust est un peu un fil rouge qu'on suit dans cette villa, sans qu'il s'agisse du tout d'un musée Proust, si vous voulez. Ce n'est pas du tout ni l'objectif, ni, je dirais, on n'a pas les moyens de cela, puisqu'il n'y a pas d'objet véritablement. Il y a des manuscrits, mais pas d'objet. Donc voilà un petit peu comment ça se présente.
Et la genèse, c'est, vous avez eu l'idée d'aller dans cette ville-là où on vous a proposé une nuit au musée et vous avez mis du temps à choisir. Comment ça s'est passé?
Alors là, franchement, je crois que je n'ai jamais écrit de livre sur commande, ce qui pourrait être une très bonne chose parce qu'après tout, ça peut être incitatif, mais ça n'est pas mon cas. Et là, j'ai demandé à mon éditeur qui est Manuel Carcassonne depuis, je crois, 32 ans. Donc, vous voyez, nous sommes un très, très vieux couple. Et je lui ai demandé de participer à cette collection qui est dirigée par Alina Gurdiel. Donc, je connaissais également. Donc, c'est vraiment mon désir, d'abord parce que j'aimais la collection aussi, et beaucoup certains livres, et que je trouvais que la Villa du Temps retrouvé avait sa place.
Mais la nuit commence mal. Vous écrivez page 14 que vous avez peur de tout, que d'ailleurs vous n'aimez pas spécialement la nuit. Vous écrivez peur du sommeil, peur de la nuit, peur de l'insomnie, peur de la déception, peur du silence, peur de la peur, ça commence mal.
Oui, en effet, parce que d'abord, on m'a fait peur. Tous les gens à qui je parlais de ce projet me disaient « Oh là là, mon Dieu, quelle horreur, et alors tu vas être toute seule là-dedans, mais est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce que
le lit est très inconfortable.
Tu vas avoir peur ?» Donc ça a fini par créer, je me suis dit peut-être que je suis complètement inconsciente. Et puis, en effet, moi je suis une dormeuse invétérée. Et donc, j'avais peur d'avoir envie de dormir et pas du tout de me balader, vous voyez, de me promener et de réfléchir. Donc, je me suis dit peut-être qu'à partir de 10h30, 11h, ben, j'aurais vraiment affreusement sommeil. Donc, en fait, ça, c'était vraiment mon angoisse principale.
Mais vous en faites un livre extrêmement proustien. C'est peut-être la villa du temps retrouvé qui vous a incité cela, parce que c'est sur la mémoire et sur le temps avant d'être cette galerie de portraits. Au chapitre 3, le chapitre 3 s'intitule Les vestiges du temps, et je vous cite, J'aime ce vertige du temps. Ces racines qui plongent dans le passé s'imbriquent et se mêlent, ces strates qui se superposent. L'un des plaisirs de la recherche historique réside dans cette transgression des époques, cet enjambement du temps, cet étirement à l'infini du passé qui rejoint le présent ou du présent qui enjambe le passé, temps perdu, temps retrouvé ou recréation sans fin. Cet aspect-là, justement, du temps qui s'étire et surtout dans la nuit qui n'en finit pas, est-ce que ça vous a paru immédiatement pendant la nuit ou plus tard en écrivant votre récit?
Non, c'est vraiment pendant la nuit. C'était comme si le temps était en effet suspendu et que j'avais non pas simplement quelques heures, parce qu'au fond, une nuit, c'est ça, mais des jours et des jours et tout mon temps. Vous savez, quand on dit avoir tout son temps, j'avais tout mon temps. Or, je suis dans la vie plutôt quelqu'un qui fonctionne rapidement. Vous voyez, j'ai plutôt tendance à faire les choses vite, etc., à accélérer. Et donc, il y a eu ce rythme qui s'est imposé et dans lequel je suis entrée très, très facilement. Je ne sais pas, comme vous entrez dans la mer et que vous vous mettez à nager tranquillement. Ben, c'était un peu comme ça.
D'ailleurs, vous le décrivez, je vous cite encore parce que c'est absolument merveilleux. On a envie de demander tous une nuit au musée. Enfin, c'était long, c'était doux, tranquille, profond, une oasis de calme, de paix. Le temps devenait une matière sensible. Cette densité ne se mesurait plus en minutes ni même en heures. Oui, le temps m'était donné. Je pouvais l'étirer ou le raccourcir, le retourner ou l'inverser, l'arrêter. Je n'attendais rien ni personne. Vous étiez là, tout simplement, un moment à moi. Ça paraît une expérience à laquelle vous ne vous attendiez pas. On a l'impression que vous avez été vous-même surprise.
Oui, absolument. J'ai été tout à fait surprise parce que ça s'est imposé à moi en quelque sorte.
Et vous avez
Et
écrit quelque chose où vous avez vraiment était, je dirais, inactive, entre guillemets, parce que à ressentir toutes les sensations.
j'ai pris vraiment très peu de notes. J'ai pris des notes très concrètes sur temps à autre, sur un tableau, un détail d'un tableau, des choses comme ça. Une ou deux phrases sur le temps, malgré tout, sur ce sentiment du temps, parce que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus manifeste. Mais je n'ai pas écrit mon livre durant cette nuit, enfin, ni même une partie du livre, si vous voulez. Mais vous le savez, en fait, on écrit à la fois, enfin, on écrit tout le temps d'une certaine manière, pas forcément quand on est devant notre ordinateur ou notre feuille de papier. Donc, je pense que dans mon cerveau, quelque chose s'est écrit à ce moment-là, mais j'ai voulu tout de même fixer cette impression et je le raconte un jour et demi, 2 jours après. J'ai vraiment écrit un texte en me disant ça risque de s'évanouir dans l'atmosphère, dans la nature, dans le présent, et je vais oublier et il faut que je l'écrive. Donc là, j'ai tout de suite écrit un texte qui n'était pas le début du livre, mais qui était tout de même le début de l'écriture au sens littéral, si vous voulez.
Et Evelyne
Voilà.
Bloch-Dhanneau, donc ça s'appelle Le parfum des années. Est-ce que vous avez envie de lire un petit extrait, page 52?
J'ai beau avoir beaucoup écrit sur le passé, je vis les deux pieds dans le présent. Je déteste m'appesantir sur ma propre histoire, celle des miens. Je tire des écrans de fumée, je raconte celle des autres. Ma nuit au musée, c'est un rêve éveillé, un refuge entre des bras rassurants. Je sais qu'elle ne se reproduira pas. La seule façon de la revivre, c'est de l'écrire. Et pourtant, je résiste. Mon inconscient regimbe à l'idée de m'y replonger. Je voudrais la garder prisonnière de ma mémoire comme un moment unique. Quelque chose s'y joue qui touche à mon intimité. Dans le prologue de la biographie de Flora Tristan, j'avais écrit: Éclairée, ainsi me suis-je vue parfois au cours de ce travail, avançant dans une grotte et promenant ma torche le long des parois afin d'en saisir les reliefs. C'était Cosa Mentale. Je pourrais dire la même chose de cette nuit dans la villa, au sens littéral. La torche, je l'avais dans la main.
J'ai une question pour vous. Pour revivre cette expérience, il vous faut l'écrire. Mais ailleurs, vous dites, ai-je vraiment besoin d'écrire cette expérience ou est-ce qu'elle ne se suffit pas à elle-même? Je crains d'abîmer ce que j'ai vécu, de poser des mots trop lourds sur des sensations trop légères, de figer des impressions, etc. La question, c'est est-ce que écrire augmente la vie ou est-ce que le fait d'écrire amoindrit l'intensité de ce qu'on a vécu? C'est dans quel sens? Parce que vous écrivez les deux.
J'écris les deux parce que je pense que c'est une sorte de contradiction interne, vous voyez, personnelle. Je pense que j'ai fait l'expérience, notamment à travers les biographies, que ce qui est chaud, vivant, quand vous êtes en train de travailler sur un sujet, une fois que c'est écrit, ça s'éloigne. Ça se refroidit, enfin, comme un corps qui voilà, se fige. Ça appartient un peu aux autres. Parfois même, en tout cas, en ce qui me concerne, je dois vérifier des détails parce que je les ai oubliés. Et donc, c'est ça un peu cette peur. En fait, ça n'est pas l'écriture elle-même qui fige, probablement, parce que évidemment, ça donne quand même, ça permet de conserver le présent, de l'introduire dans la durée. Mais tout de même, peut-être que d'une certaine façon, mettre des mots, ça arrête cette durée. Vraiment, ça fige quelque chose. Ça, je crois. Donc, l'enjeu de l'écriture, pour moi, souvent, c'est d'éviter cela, c'est-à-dire de faire en sorte que l'écriture reste assez vivante, assez proche de ce que j'ai éprouvé ou de ce que je découvre quand il s'agit d'une biographie, donc de quelqu'un d'autre, pour que ça reste tout à fait vivant. Et par exemple, pour certaines, même presque toutes les biographies, je ne fais pas mon travail de recherche avant d'écrire. Et en fait, j'écris au fur et à mesure et je découvre des choses au fur et à mesure de l'écriture parce que c'est encore une façon de garder le mouvement, vous voyez.
Et tout ce livre, le parfum des années, et ce fil entre l'éphémère et l'éternel, entre le bonheur qui fuit et le désir de le fixer, et vous faites référence à cet article de Freud, L'éphémère destinée. Vous l'avez relu après avoir écrit le livre?
Je l'ai lu après, si je me rappelle bien, après avoir fait la nuit, passé la nuit à la villa. Je pense que je l'ai lu après, mais honnêtement, là, j'ai un doute pour vous répondre.
Alors, vous parlez des femmes de la Belle
Oui.
Époque. Enfin, il y a pour le coup énormément de portraits de femmes qui pourraient chacune être l'objet, enfin, qui ont été l'objet de biographies. Mais il y a Rosa Bonheur. Mais vous parlez, avant de les citer, vous parlez aussi de vous. Et c'est un moyen de parler de vous. Quand vous parlez de Rosa Bonheur, vous parlez de votre grand-mère qui s'appelait Rosa, mais vous précisez que elle, c'était plutôt Rosa Malheur.
Oui, c'est J'aime bien simplement faire des petites touches, vous voyez, comme ça, qui procèdent un peu par association d'idées. J'ai peu écrit, en effet, véritablement sur ma famille. J'ai quand même écrit deux livres, Porte de Champerret et La Biographe, qui étaient en lien avec l'histoire de ma famille maternelle. Mais à chaque fois, je me cachais un peu derrière un autre sujet. Porte de Champerret, c'était aussi l'histoire d'un quartier, d'un espace. Et La Biographe, c'était en miroir avec Romy Schneider, puisque ma mère était juive allemande. Et ça m'avait intéressé de regarder les deux faces de ce miroir autour de l'Allemagne. Mais donc là, ce sont des touches. C'est aussi mon présent, quelquefois, au moment où j'écris. Et là, c'était évidemment, ça m'était indispensable parce qu'il y avait une dissonance si forte entre ce que j'avais vécu et le présent qui était celui de la guerre au Moyen-Orient et en particulier en Israël et à Gaza. Et donc, où j'étais, une période, j'étais aux aguets, comme je crois, après le 7 octobre, beaucoup d'entre nous l'ont été. Et donc, c'était une sorte de, j'ai dit dissonance, mais c'était plus fort que ça, c'est-à-dire qu'il fallait que je mâche à ce présent, à ce qui était zébré comme ça, de nouvelles, enfin de messages de mes amis en Israël, d'inquiétude, pour retrouver la paix de cette nuit. Donc voilà, le présent venait contaminer, si je puis dire, la douceur de ce passé.
Evelyne Bloch-Dhanneau, on va écouter votre choix musical. C'est L'heure exquise. C'est une musique de Reynaldo Hahn dans l'interprétation de Graham Johnson et Martin Hill. Evelyne Bloch-Dhanneau, Le parfum des années, Ma nuit au musée chez Stock. Cette musique est absolument merveilleuse. Ça va évidemment avec la villa où vous avez passé la nuit. Et alors, vous décrivez les femmes de la Belle Époque. Vous dites les années 1880 à 1914. marque l'une des plus formidables poussées féministes de notre histoire, des progrès dont nous bénéficions encore et qui nous semblent évidentes, comme s'ils avaient existé de tout temps, ce qui est absolument exact. Alors vous prenez pour... il y a les portraits, donc on a parlé de Rosa Bonheur, mais il y a Vinaretta Singer, la comtesse de Greffül, Sarah Bernhardt. Vous avez fait des recherches après ou vous les connaissiez toutes ou comment vous avez écrit?
Alors, je les connaissais, ces trois-là, par exemple, oui, enfin, Sarah Bernhardt, Winnaretta Singer-Polignac, j'avais lu une biographie il y a déjà pas mal d'années, Greffül, évidemment, quand
On
on
s'intéresse à
travaille, on
Proust.
écrit sur Proust, Rosa Bonheur, moins. Moi, parce que j'avoue que sa peinture n'était pas celle que je préfère, mais sa vie est passionnante, sa personnalité extraordinaire. Et Sarah Bernhardt, j'avais lu il y a très longtemps, c'était publié par les Éditions des Femmes, son autobiographie, ses mémoires plus exactement, qui s'appelle Ma double vie. Et c'est d'abord, c'est très réjouissant, c'est très drôle, elle écrit très bien, une écriture vive, plutôt, je veux dire, assez envoûtante, enfin, et elle raconte beaucoup de choses sur l'époque, sur elle-même. Donc
Et vous avez
ça,
pu entendre sa voix dans le musée,
oui, mais...
un extrait de pièce, enfin, elle déclamait.
Oui, parce que y a toujours, vous savez, il y a des objets numériques et il y a des sortes de petits twists comme ça entre le passé et le présent aussi là. Et donc, il y a un téléphone et selon les expositions, puisque chaque année l'exposition change, on entend un autre extrait. Donc là, on entendait Sarah Bernhardt et après, je suis allée l'écouter en fait sur Internet. J'ai écouté Phèdre. Et un extrait de Phèdre, d'une tirade de Phèdre. Et évidemment, il y a une emphase qu'on n'a plus au théâtre, mais vous êtes, enfin, moi, j'ai quand même été saisie par quelque chose et on peut tout à fait comprendre pourquoi elle envoûtait vraiment son public. Et voilà, donc j'essaye toujours d'aller un petit peu à la source. Si possible, et on a quand même ces outils extraordinaires aujourd'hui qui nous le permettent. Donc voilà, et ce qui m'intéressait aussi pour Winnaretta Singer et Greffül, c'est que c'était des autoportraits. Donc évidemment, ça pouvait être amusant et intéressant de voir la façon dont elle cherchait à se représenter et dont elle y parvenait plus ou moins bien, très bien pour l'une, moins bien pour l'autre. Donc voilà, c'était. J'avais envie aussi à propos de la Belle Époque, et je vais finir avec ça, mais parce qu'on est quelquefois, on vit sur des clichés, comme si on avait. Voilà, toutes les femmes dans le passé étaient des malheureuses qui, sous le joug de leur mari ou écrasées, vous voyez, par leur destin. Alors, je ne nie pas, évidemment, qu'il a fallu beaucoup de temps, mais il y a des périodes comme ça qui sont des périodes vraiment dynamiques. Et toute une recherche que j'ai faite pour ce livre, et en particulier dans la presse, de l'époque et les journaux, féministe de l'époque et féminin mais féministe, c'est vraiment formidable et c'est très actuel par certains côtés. Donc voilà, tout ça, je l'ai appris grâce à mon livre, en fait, si je puis dire, en écrivant le livre.
Et puis vous vous arrêtez devant ce tableau de Catherine Brello, je ne sais pas comment ça se prononce, Intimité.
Oui, alors là, ça a été, j'ai eu vraiment un coup de cœur
Mais vous le
pour cette.
connaissiez avant ou vous l'avez
Pas du
découvert?
tout,
Pas du tout.
je n'avais jamais entendu le nom. En fait, c'est Louise Catherine Breslau. C'est le nom d'une ville à l'origine, en fait, Breslau. Et donc, j'ai été fascinée dès mon entrée, en fait, dans la villa le soir. Et donc, je découvrais l'exposition. Je connaissais les lieux, mais je découvrais l'exposition et j'ai tout de suite eu envie de savoir qui était cette peintre. Et j'ai vraiment une envie, c'est que quelqu'un réunisse des tableaux de Louise Breslow, qui est une grande portraitiste aussi de l'époque, notamment de femmes et d'enfants, et de la haute société juive en particulier, là, et aussi d'artistes, etc., qui lui demandaient de les peindre. Mais il y a aussi toujours quelque chose autour de l'intimité, en effet, de l'amitié entre femmes. Voilà, il y a quelque chose de magique, et la magie, ça a été aussi de m'apercevoir que cette femme qui m'était étrangère et qui m'avait tellement touchée, eh bien, elle est originaire et enterrée, je crois, là-bas, à Baden, en Suisse, à côté de Zurich, qui est la ville d'où est originaire ma grand-mère paternelle, cette fois-ci. Donc, tout d'un coup, il y avait une rencontre, bon, purement, j'imagine, due au hasard, mais aller savoir. Donc, je vais aller à Baden, où je ne suis jamais allée, sur les traces de ma grand-mère et sur les traces de Louise Breslow.
Oui, c'est assez passionnant. Et le titre, Le parfum des années, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'odeurs dans vos livres. Vous dites qu'on aurait pu faire vous pourriez faire votre autobiographie à travers les senteurs, et vous citez tous les parfums que vous avez mis dans toute votre vie. Le titre, Le parfum des années, c'était une évidence?
En fait, ça a d'abord été le titre du chapitre, et puis ça a été une évidence parce qu'en temps normal, la villa, il y a un parfum très très subtil qui est diffusé, donc c'est aussi ce qui est attaché. Et puis on a parlé du temps et de l'éphémère, et au fond, un parfum, c'est ça. C'est-à-dire que vous le portez, mais au fil de la journée, en principe, sauf s'il est vraiment très fort, il va s'évanouir petit à petit, et on en remet, et il y a un mouvement comme ça de va-et-vient avec le parfum. Donc je trouvais que ça, voilà, ça s'est imposé, ou là encore.
Le parfum des années, ma nuit au musée chez Stock d'Evelyne Bloch-Dano. Le livre est absolument merveilleux à lire. On y apprend énormément de choses. On a envie d'aller dans ce musée. On a envie d'en savoir plus sur tous les gens dont vous parlez. Ça donne envie de lire et de creuser toute cette belle époque. Donc, je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup à vous, merci pour vos questions.
Merci Clément à la technique. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h. Bonne semaine!